Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur l'actualité africaine, avec plusieurs dossiers chauds tirés des dépêches d'Africa Press du 2 mai 2025.
Bonjour. Oui, une journée riche en informations.
Notre objectif ?
Décrypter ensemble les points essentiels. On va parler commerce agricole, avec les États-Unis, la GEOA,
oui,
mais aussi de finances en Afrique centrale, de la traite de la Côte d'Ivoire pour l'or.
Sans oublier la politique, au Nigeria, au Tchad.
Exactement.
Et puis cet espoir de paix entre la RDC et le Rwanda. Bref, un programme chargé.
Tout à fait. On va essayer d'y voir plus clair en se basant strictement sur les faits rapportés.
Parfait. Alors, commençons par cet accord AGOA, l'accord commercial Afrique-USA. Il expire en septembre 2025, ça approche vite. Qui mène la danse des exportations agricoles africaines vers les États-Unis actuellement ?
Eh bien, c'est la Côte d'Ivoire, et de loin. 823 millions de dollars en 2022. C'est principalement le cacao, bien sûr. Fèves, pâtes, beurre.
Ah oui, le cacao ivoirien. Et depuis le début de l'accord ?
Depuis 2000, leurs exportations agricoles cumulées vers les US, ça représente 15,7 milliards de dollars, c'est énorme.
Impressionnant, mais il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, j'imagine.
Non, non, d'autres acteurs sont très importants. L'Afrique du Sud, par exemple, avec 622 millions en 2022. Agrumes, vin, noix de macadamia.
D'accord.
Le Ghana aussi, 328 millions, toujours du cacao, mais aussi des noix de cajou. Madagascar, avec la vanille surtout, 294 millions. Et le Kenya, 176 millions, café, thé, fleurs coupées.
Donc, un impact global assez conséquent pour le continent ? Oui, au total, si on cumule tout depuis 2000 sous AGOA, on arrive à près de 39 milliards de dollars d'exportations agricoles.
Oui.
Mais vous disiez, enfin on disait, l'incertitude plane.
Exactement. L'expiration en septembre 2025, c'est demain. Et puis il y a eu ces tarifs douaniers récents imposés par l'administration Trump qui ont un peu jeté un froid. Et des négociations cruciales sont prévues en juillet 2025. Donc oui, beaucoup d'incertitudes.
On reste sur l'économie, mais direction l'Afrique centrale. Une négociation tendue, semble-t-il, entre les pays de la CEMAC, les compagnies pétrolières, et la BEAC.
C'est ça.
C'est tout à fait ça. Le sujet, c'est le rapatriement des fonds destinés à la réhabilitation des sites pétroliers. Des sommes importantes qui sont aujourd'hui dans des banques commerciales en Europe.
Et les pays de la CEMAC veulent que cet argent revienne à la BEAC, la Banque Centrale Régionale.
Exactement, pour augmenter les liquidités locales, disent-ils.
Mais ça coince, pourquoi ?
Bah, sur les 28 points en discussion, le gros point de friction, c'est l'immunité de la BEAC.
L'immunité ?
C'est-à-dire ?
En gros, les pétroliers craignent de ne pas pouvoir accéder facilement à ces fonds si besoin. Ils s'inquiètent aussi d'avoir une moins bonne rémunération pour cet argent qu'en Europe. Donc, ils demandent la levée de l'immunité de la BEAC comme garantie.
Ce que les ministres refusent.
Oui, les ministres de la CEMAC rétortent que l'argent serait placé en compte séquestre, donc des comptes bloqués spécifiquement pour cet usage, et non pas pour leurs dépenses courantes. Ça discute encore.
Affaire à suivre. On passe de l'or noir à l'or jaune. La Côte d'Ivoire devient une sorte de refuge pour les producteurs d'or, non ? Surtout ceux qui quittent le Sahel.
Expert speaker.
Oui, c'est une tendance observée. Des compagnies comme Resolute Mining, Fortuna Mining, elles renforcent leur présence en Côte d'Ivoire.
Mais le potentiel est là.
Ah oui, on parle de réserves estimées à 600 tonnes. La production était d'environ 60 tonnes en 2024 et l'objectif c'est 100 tonnes par an d'ici 5 ans.
Ambitieux.
Très. Et le pays mise sur sa stabilité relative et sa politique pro-investissement. Bon, après il y a une révision du code minier en cours et la concurrence du Ghana et de la Guinée n'est pas négligeable. Mais oui, l'attractivité est réelle.
D'accord. Changement de décor. Le Nigeria. Le paysage politique là-bas, il bouge pas mal, surtout dans le sud pétrolier.
Oui, on voit que le PDP, le parti historique d'opposition, eh bien, il est en difficulté depuis qu'il a perdu le pouvoir en 2015.
C'est l'APC, le parti du président Tinubu, en profite.
Exactement. L'APC renforce son influence, notamment dans le sud. On a vu des défections assez marquantes de figures du PDP vers l'APC dans l'état de Delta, par exemple.
Et ça menace des bastions historiques du PDP.
Oui, comme Rivers, qui est d'ailleurs sous état d'urgence en ce moment, ou Akwa Ibom. Ajoutez à ça les divisions internes au PDP. Et puis il y a ces accusations, hein, comme quoi l'APC chercherait surtout à mettre la main sur les ressources pétrolières. Tout ça rend la situation assez complexe, à l'approche des élections de 2027.
On termine avec des notes un peu plus positives ?
Des avancées entre la RDC et le Rwanda.
Oui, un développement potentiellement significatif.
Un avant-projet d'accord est présenté à Washington aujourd'hui même.
Ah oui.
Ça fait suite à la déclaration de principe signée la semaine dernière.
Tout à fait, sous médiation américaine.
Ce projet d'accord couvre des points clés. La souveraineté de la RDC, la lutte contre les groupes armés, le commerce des minerais, la question des réfugiés, le rôle de la MONUSCO.
C'est complet.
Et la suite, c'est quoi?
Le calendrier.
Ben, des experts des trois pays sont en train de travailler sur le texte, là. On espère une finalisation par les ministres vers la mi-mai.
Pour une signature officielle en juin?
C'est l'objectif, oui. Peut-être même avec les présidents Tshisekedi et Kagame. Il y a aussi des discussions parallèles à Doha avec d'autres acteurs internationaux. Donc c'est un processus délicat, mais ça avance.
Un dernier point rapide au Tchad. Le ton monte entre l'ancien premier ministre Succès Masra et le président Déby.
Oui, Masra a parlé de changements cosmétiques de la part du président. C'était lors de l'anniversaire de son parti, Les Transformateurs.
Et ça n'a pas plu au camp présidentiel, j'imagine.
Pas du tout. Le MPS, le parti au pouvoir, a jugé ce ton irrévérencieux. Il rappelle que l'accord de Kinshasa de 2023, qui avait permis le retour de Masra, ce n'était pas une garantie de partage du pouvoir à vie, surtout après leurs succès électoraux récents.
Donc la cohabitation s'annonce difficile.
C'est ce que disent certains analystes, oui. Ça semble compliqué.
Bon, eh bien voilà un tour d'horizon très dense. On voit bien ces dynamiques complexes. Les enjeux commerciaux, la gestion des ressources, les jeux politiques, la diplomatie.
Oui, et chaque dossier a des implications importantes dont la stabilité régionale, le développement et même les relations internationales du continent. Tout est assez lié en fait.
Justement, c'est peut-être la question à laisser en suspens pour nos auditeurs. Comment toute cette interconnexion entre l'économie, que ce soit la GOA, le pétrole en Afrique centrale, l'or ivoirien, et la politique au Nigeria, au Tchad, ou cette tentative de paix RDC-Rwanda, comment tout cela pourrait remodeler les équilibres et les avenirs possibles pour l'Afrique dans les années qui viennent?
Une excellente question, en effet. De quoi réfléchir?